Bonjour Mathilde Bruxelles.
Bonjour.
Alors, tu es fondatrice. Mm-hmm. Tu es, je reprends comme ça, je couperai. Tu es fondatrice de l'association des amis de Jocelyne Saab. Voudrais-tu nous dire qui es-tu et puis qui est Jocelyne Saab?
Alors, moi je suis chercheuse en études cinématographiques. J'ai réalisé un master de cinéma aussi sur Jocelyne Saab qui a été publié en livre en 2015. Et je poursuis aujourd'hui une thèse de doctorat sur le cinéma des femmes arabes, ce qui fait que j'ai continué à travailler beaucoup sur le cinéma des femmes et notamment le cinéma de Jocelyne. Et ma rencontre avec Jocelyne en 2013 m'a amenée à travailler avec elle et à devenir son assistante personnelle pendant 6 ans. Donc j'étais très proche d'elle jusqu'à la fin et j'ai notamment de ses archives aussi, puisque je travaillais avec ses archives pour mon travail de recherche. Et tout ça a conduit son fils à me demander de prendre en charge l'intégralité de son patrimoine, finalement, ses archives papier et filmiques. Et c'est ça qui a mené la création de cette association, qui a pour objectif de valoriser, de préserver et de diffuser l'intégralité des films, mais aussi des photos et du coup de son patrimoine aussi papier, de Jocelyne Saab, qui était une réalisatrice libanaise qui s'est naturalisée au milieu des années 80, qui a travaillé en France en tant que journaliste beaucoup au début de sa carrière. Elle travaillait pour France 3 en tant que journaliste de télé et elle a couvert tous les conflits du Moyen-Orient, en Irak, en Égypte, en Libye, dans le Sahara et évidemment la lutte palestinienne beaucoup, jusqu'au moment où la guerre au Liban a éclaté et où elle a décidé de commencer à travailler en tant que cinéaste indépendante. Et elle a réalisé une trentaine de films d'elle-même, de façon indépendante, qu'elle a diffusé dans le monde entier. Et à partir de là, elle s'en est suivie une carrière de cinéaste, puisqu'elle a aussi diffusé beaucoup de films dans les cinémas, dans les salles de cinéma en France notamment. Et elle a réalisé des fictions qui l'ont conduite à travailler l'image de façon plus esthétique jusqu'à finalement travailler avec la photographie. Donc c'est une œuvre très conséquente, c'est l'une des plus grandes, des plus prolixes cinéastes arabes de manière générale. Alors, si on parle des femmes, évidemment c'est la plus prolixe. C'est aussi une pionnière puisqu'elle a commencé en 73 et les femmes, il y en a très peu avant les années 70 dans le monde arabe. Donc c'est une cinéaste essentielle, c'est une cinéaste historique que tout le monde devrait connaître et que les gens connaissent peu, même dans le monde arabe, parce que ses films ne sont pas disponibles, comme la plupart des films arabes, qui sont très difficiles à obtenir. Donc voilà, notre objectif, c'est de lancer aussi un grand mouvement de patrimonialisation du cinéma arabe, et on espère que ça va pouvoir faire des échos. Et commencer par cette œuvre-là, c'est aussi très symbolique, puisque justement, le fait qu'elle soit aussi franco-libanaise, ça permet de réactiver un peu aussi ces associations Europe-Arabe, en mettant un peu plus l'accent sur ce que peuvent proposer les Arabes.
Peut-on dire que France-Liban, ce sont des relations qui ont pu être parfois amicales, parfois également un peu occultes ?
Oui, évidemment, c'est compliqué. C'est des relations qui sont très compliquées, mais toutefois, il n'y a pas la haine du colon au Liban telle qu'on la connaît en Égypte, dans le Maghreb ou même en Orient. Il y a une espèce de fascination envers la France d'abord, comme terre de culture aussi, et aussi parce que c'est eux qui financent la culture au Liban. Et que je pense que finalement aucun film n'aurait existé s'il n'y avait pas eu le cinéma français pour soutenir aussi, le CNC notamment, pour soutenir la production libanaise. Parce que comme on le disait aussi d'autres réalisatrices, il n'y a pas d'industrie du cinéma dans le monde arabe à part en Égypte. Et il faut faire avec la France pour ça. Et je pense que aujourd'hui encore, la France prend un peu à cœur de devoir s'occuper de tout ça, parce que personne ne le ferait autrement, et que ce soft power-là est très important pour eux.
Oui. Mais on peut effectivement clairement dire que cette relation continue d'avoir cours. Je veux dire, l'Alliance française est présente. Il y a des noms de rues à Beyrouth qui sont des noms de rues françaises, de Paris même, j'imagine, hein, l'avenue Foch notamment, hein, par exemple. Ouais. Alors toi-même, du coup, tu t'es rendu de nombreuses fois au Liban.
Oui, alors en fait, je suis partie au Liban la première fois en tant qu'étudiante. Et j'ai rencontré Jocelyne Saab à l'occasion de mon travail de recherche finalement. Et j'ai vécu là-bas pendant un an. Et j'ai commencé à travailler avec Jocelyne Saab sur son dernier immense projet, qui était un projet de festival, en fait, qu'elle a monté à Beyrouth, pas seulement à Beyrouth, à Tripoli, à Saïda, à Tyr et à Zahleh, avec l'objectif de montrer des films qui viennent du continent asiatique, puisque le Liban fait partie de l'Asie, et elle essayait de retourner le Liban vers ses origines et vers son appartenance asiatique, pour essayer de casser un peu cette idée d'une Amérique providence qui fait toujours rêver encore beaucoup de gens, et en essayant de leur montrer qu'il y a aussi d'autres horizons. Et elle a ramené du Japon, des Philippines, de Chine, des films très très engagés, des films qui discutent des problématiques que les Libanais connaissent très bien, de guerre, de misère, d'inégalité. Et son objectif était de les projeter partout, dans toutes ces villes qui sont de confessions différentes, pour réunir le Liban sous la bannière du cinéma et de l'art.
Le Liban est un pays particulier également parce qu'il est multiconfessionnel.
Effectivement, il y a 18 communautés différentes au Liban et la constitution même impose une division des tâches par confession. Donc à partir de là, puisque chaque fonction politique a une confession, on se retrouve dans un système très sectaire en fait qui ne fonctionne pas, comme le montrent les manifestations récentes aussi. Qui divise la société.
Alors elle s'est éteinte en début janvier 2019, donc c'est tout récent. Une femme qui a traversé la guerre du Liban également, qui a traversé des moments historiques, des moments funestes, Sabra et Shatila, enfin des moments extrêmement particuliers. Comment est-ce que l'on traverse ça et quel est son héritage lorsque l'on est effectivement une cinéaste engagée, une cinéaste femme ?
Je pense que la question justement de savoir si on est une femme ou pas est une question qui l'avait vraiment troublée, parce qu'on l'a posée beaucoup, mais qui l'a jamais intéressée, parce que finalement quand on est sous les bombes, qu'on soit un homme ou une femme, on souffre, et c'est cette souffrance-là qu'elle voulait discuter, c'est cette souffrance-là qu'elle voulait montrer, et elle était très engagée d'abord pour proposer une autre image du Liban, parce qu'effectivement les relations franco-libanaises sont aussi des relations d'intérêt politique, et durant la guerre du Liban les journalistes qui partaient à Beyrouth ne documentaient pas la même chose que Jocelyne, et en général c'était l'autre côté qu'on voyait beaucoup dans la guerre, et Jocelyne avait pour ambition de montrer que non, mais le problème c'est peut-être d'abord Israël, le problème c'est peut-être d'abord qu'il y a un racisme latent terrible et que personne, on est en train de discuter d'un pays arabe dans un monde arabe, d'une guerre entre chrétiens et musulmans.
Et elle-même, de quelle position parlait-elle ? Jocelyne, c'est un prénom éminemment chrétien maronite, je pense, est-ce le cas ?
Elle était chrétienne maronite, elle était d'une grande famille bourgeoise d'ailleurs, elle vivait dans un des plus beaux palais de Beyrouth. Mais elle a eu la chance d'avoir ce palais situé à Beyrouth Ouest, pas très loin de Basta, justement.
On en parlait tout à l'heure.
Oui, dans un quartier magnifique par sa mixité, en fait, depuis toujours. Et donc pas du côté beaucoup plus chrétien, beaucoup plus maronite de Beyrouth Est, qui a été effectivement un quartier monopolisé par les chrétiens. Il y avait même eu des réfugiés de Beyrouth Ouest envoyés à Beyrouth Est durant la guerre, donc c'était terrible pour eux aussi, bien sûr. Mais elle a toujours été dans un environnement très mixte, parlait avec des Syriens, des Kurdes, des Égyptiens aussi, beaucoup. Et bien qu'elle ait eu une éducation catholique envoyée au sort de Nazareth, elle a eu toujours cette espèce de fascination pour la différence. Son père ayant été un marchand en Inde et en Chine avant de monter sa propre banque. Et cette fascination-là l'a amenée à suivre les groupes politiques d'extrême gauche à l'université Saint-Joseph, évidemment, tout de même. Mais voilà, elle a rencontré Elias Sandbar là-bas, et à partir de là, elle a commencé à visiter les camps et à comprendre que sa position, elle n'était pas chez les chrétiens, elle était chez les Arabes.
Alors, on l'a dit, de nombreuses communautés existent toujours au Liban. De quelle manière est-ce qu'elle arrivait, Jocelyne Saab, justement, à naviguer au travers de ces communautés-là ? Pourrait-on dire qu'il y a des idées qui transversales, des idées qui dépassent, qui sont plus grandes que des sentiments peut-être d'appartenance, qu'elles soient géographiques, politiques ou religieuses, hein, parce que c'est un petit peu les trois niveaux que l'on trouve au Liban. Peut-on dire que d'une certaine manière, Jocelyne Saab a pu avoir ce regard sur une entité libanaise ?
Je ne sais pas si elle a pu avoir un regard sur une entité libanaise, parce qu'elle était très nassériste. Et ce nassérisme impose un panarabisme qui déborde complètement les frontières. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle a été si proche de la cause palestinienne. La cause palestinienne, pour une chrétienne maronite du Liban, ce n'est pas forcément la voie tout indiquée pour un engagement politique. Mais de son côté, elle a eu la chance aussi de naître en 48. Elle a eu la chance d'avoir eu presque 20 ans en 67, et donc d'avoir une conscience politique très forte qui déborde complètement les communautés religieuses. Et dans les années 70, quand même, partout dans le monde, c'est d'abord la politique qui prime, Et c'est encore le temps des grandes idéologies, c'est le temps où le communisme a encore de la force, c'est le temps où une idée d'une solidarité est encore vraiment franchement considérée et on imagine que ça ne peut marcher que par le collectif. Et je pense que c'est dans cette idée de collectif qu'elle s'est inscrite, même si effectivement elle n'a jamais appartenu à aucun parti politique, qu'elle n'a jamais voulu suivre les communistes, qu'elle n'a jamais voulu suivre particulièrement l'OLP ni le Fatah. Et pourtant... L'OLP, le Fatah, le FPLP ont toujours fait appel à elle pour pouvoir documenter leurs actions parce qu'elle était loin de la propagande et elle était capable de critiquer. Et la critique, finalement, de temps en temps, ça permet aussi de montrer des faiblesses, permet aussi de séduire. Et ça, c'est des choses que les grands dirigeants politiques ont toujours compris avec Jocelyne.
Et toi, tu as cette occasion de l'accompagner pendant quelques années, pendant ces combats-là, pendant ces prises de vue. Comment c'était le quotidien avec Jocelyne Saab ? Est-ce qu'il y avait des moments, évidemment, des moments de flamboyance, des moments, voilà, de courage, mais également des moments peut-être de résignation ou de tristesse, d'abîme, parce que, eh bien, on voit un pays qui se déchire pendant plus d'une décennie, pendant 15, 16, 17 ans.
Je pense que sa force a toujours été de refuser de se résigner. Et bien qu'elle ait vécu dans une misère absolue, puisqu'effectivement, ces conflits religieux et ces conflits militaires ont aussi divisé sa famille, qui n'a pas pris du tout les mêmes positions qu'elle. Ça a conduit à de grandes ruptures, à de grandes fractures, qui, je pense, ont beaucoup plus blessé en soi que ce que la politique aurait pu faire. Et elle a toujours voulu se battre avec l'idée qu'on pouvait toujours faire mieux et que de toute façon, même si on ne trouve pas d'argent, parce qu'on ne trouvait pas d'argent, on peut quand même faire des choses et qu'on peut commencer à faire des choses avant d'avoir de l'argent parce que finalement, ce qui est important, c'est de mobiliser les gens autour d'un projet, pas tellement l'objet, c'est déjà le trajet qui est important. Avec Jocelyne, c'était vraiment ce qui était essentiel. C'est-à-dire que même quand on s'est rendu compte qu'il n'y aurait personne à ce festival, la première édition, parce que c'était trop compliqué, c'était en 2013, il y avait des bombes qui explosaient partout, Tripoli était déchirée par les flammes et par ces combats qui avaient lieu dans les souks à cause des Syriens qui venaient... Voilà, il y avait des conflits aussi qui s'étaient transposés de Syrie au Liban. C'était terrible. Et après une explosion, les gens sortent pas au cinéma. Mais c'était très important quand même de faire cette édition d'inviter les réalisateurs à parler, d'inviter les réalisateurs à voir Beyrouth, à comprendre le Liban. Et elle les a transportés partout alors que c'était très dangereux. Et tout le monde a suivi parce qu'on a envie de faire confiance à quelqu'un comme Jocelyne. Son énergie était incroyablement communicative.
Et alors, justement, on l'a dit, tu travailles avec elle, mais il y avait, j'imagine, également des moments de délassement. Y avait-il des moments, justement, où on sentait qu'on pouvait un petit peu lâcher prise et puis s'évader, avoir des univers comme ça, de la poésie ? Raconte-nous un petit peu ces caractéristiques-là de Jocelyne Saab.
Oui, c'était... En fait, en voyant ces films, on comprend très bien ce trait spécifique de sa personnalité. Jocelyne était une poète. C'était pas une analyste politique, c'était pas une grande journaliste, c'était une grande poète. Et c'est par cette poésie-là qu'elle pouvait montrer le mieux de Beyrouth et le plus beau de Beyrouth pendant la guerre et même après, finalement, jusqu'à la fin. Ces photos sont aussi très très importantes pour ça. C'est parce qu'elles permettent de montrer une réalité qui est dure, mais avec beaucoup de beauté. Et ça, c'était dans le quotidien aussi. Jocelyne était une grande amoureuse de la mer, donc de la plage aussi, beaucoup. C'était une grande gourmande. C'était quelqu'un qui aimait la vie et qui aimait faire des choses comme ça et que tout le monde la suive. Et si on la suit pas, ça l'énerve un peu, mais bon, elle partira toute seule, c'est pas grave. Elle veut faire, et donc on la suit, parce qu'on a envie de voir aussi ce qu'elle peut nous proposer en nous emmenant partout. C'était quelqu'un de très très généreux, de très, évidemment, d'assez mégalomaniaque aussi. C'était une artiste. Mais suffisamment généreuse pour qu'on puisse lui pardonner aussi ses petits défauts. C'était quelqu'un d'assez impressionnant à ce niveau-là. Ouais.
As-tu eu, et si oui, lesquelles, des rencontres particulières que tu auras envie de nous dire en compagnie justement de Jocelyne Saab, je sais pas, des personnalités politiques ou pas du tout des personnalités politiques, mais des moments un peu des saillies comme ça, des moments particuliers?
Jocelyne m'a permis de découvrir un monde qui n'est pas le mien du tout, qui est celui de la grande bourgeoisie aussi, arabe, et notamment palestinienne ou algérienne, parce qu'elle était aussi très proche des Algériens, qui étaient à peu près les seuls à vouloir accepter de passer ses films à la Cinémathèque à l'époque, où politiquement tout était très tendu, parce qu'effectivement tout le monde censurait tout. Et j'ai rencontré notamment Wassila Tamzali, qui est une grande féministe algérienne. J'ai rencontré de grands créateurs de mode palestiniens qui étaient des grands amis de Jocelyne et qui finalement, s'ils n'avaient pas été là, elle n'aurait pas fait autant de choses non plus, parce que voilà, on a besoin de mécènes aussi pour créer. Et pas de rencontres aussi percutantes que Jocelyne. parce qu'elle avait une simplicité aussi du fait de son combat perpétuel et donc du coup de son absence de... Elle n'était plus une bourgeoise à la fin. Mmh. Elle n'était plus du tout une bourgeoise. Donc elle avait besoin d'humilité pour pouvoir approcher les gens, et c'est cette humilité-là qui la rendait si accessible. Et cette accessibilité-là, tous les gens qu'elle a pu me faire rencontrer ne l'ont pas. Et c'est là aussi la force d'un personnage comme Jocelyne, qui était capable de s'adresser à tout le monde. Et ce qui était très beau, c'est que jusqu'à la fin, même très très malade, chaque personne qu'elle pouvait rencontrer était potentiellement quelqu'un qu'elle pourrait intégrer dans sa vie. Même un médecin qu'elle rencontre en Airbnb parce qu'elle est en voyage, elle se dit « Ok, moi je suis malade, est-ce qu'il faut que je discute avec ces gens que je comprenne ?» Ils ont beaucoup... Elle partait du principe que tout le monde pouvait lui apporter beaucoup de choses. Et je pense que ça, par contre, c'est une rencontre avec la vie qui m'a transformée aussi. Plus finalement que de rencontrer des grandes personnalités, des gens qui ont fait des choses ou qui ont dit des choses importantes. C'est cette espèce d'idée qu'on a tous de la valeur.
Oui. J'ai envie de te questionner sur le voyage et sur la famille. Deux notions qui sont extrêmement importantes au sein des familles libanaises, non seulement parce que effectivement les familles au Liban, c'est extrêmement important, et également le voyage. On sait que beaucoup de Libanais ont quitté le Liban au moment de la guerre civile, mais pas que, avant et après. Est-ce là des notions qui habitaient Jocelyne Saab? Est-ce qu'il y avait dans le voyage la notion d'éloignement, de déracinement, de déchirement ou pas? Ou est-ce qu'elle était ravie de s'éloigner pour mieux revenir, ou de s'éloigner pour raconter quelque chose? Premier volet de la question. Et deuxième volet, y a-t-il eu des déchirements familiaux? Parce qu'on sait, comme on l'a dit, l'importance de la famille, et que l'engagement peut des fois conduire, et notamment lorsque l'on est issu d'une famille maronite bourgeoise, eh bien, notamment certains engagements sociétaux, politiques, appelons-les comme on veut, eh bien, peuvent peut-être créer ce déchirement-là au sein de la famille.
Alors, je pense que peut-être que je m'avance un peu de façon ardue, et je devrais peut-être pas dire ça, mais j'ai l'impression que pour des familles bourgeoises, c'est plus facile de se déplacer parce qu'on est presque sûr de pouvoir revenir déjà. Ce qui change complètement la donne avec des réfugiés qui partent parce qu'en fait ils doivent partir.
Oui.
Et la fascination que Jocelyne avait pour le voyage et qu'il a accompagné toute sa vie, c'est intéressant comme question parce qu'effectivement elle vient de son père. Son père était un ouvrier à l'origine, il construisait des routes. Il a construit des routes à travers tout l'Irak jusqu'en Inde, et après il a commencé à travailler dans le commerce. Il allait jusqu'en Chine et il a appris 3 ou 4 dialectes chinois. Il parlait indien, hindi, il parlait aussi perse, et elle le voyait très peu. Mais c'était un personnage qui l'a fasciné complètement.
Okay.
Et Jocelyne était la fille du milieu. Elle était celle qu'on oublie, celle qu'on ne regarde jamais. Et donc, du coup, son père était vraiment son modèle, et elle était complètement fascinée par son père, qui en plus, par chance, partageait ses idées politiques. C'est-à-dire qu'en 78, quand Israël est entré au Liban et a occupé le sud du Liban, et que les réfugiés du sud ont dû remonter sur Beyrouth, Jocelyne qui était seule dans la maison, puisque sa famille était partie à la montagne, dans leur maison de famille à la montagne, avait ouvert les portes du palais aux réfugiés avec le soutien de son père. Et son père est mort en 81. Et à la mort de son père, tout s'est effondré, puisque justement, elle n'avait plus ce soutien-là. Et donc, du coup, on ne comprenait plus pourquoi elle continuait à se battre du mauvais côté, d'une certaine façon. Et ces déchirures-là ont été renforcées par la destruction de sa maison. Et ça, c'est elle en donne le témoignage dans Beyrouth, ma ville, qui est projeté dans le cadre du festival, qui est un film absolument magnifique. La maison brûle en 82 durant le siège israélien, parce qu'effectivement la maison était à Beyrouth Ouest, et on ne saura jamais vraiment qui a mis le feu à cette maison, mais en tout cas ça a suffi pour faire un divorce éternel avec le reste de sa famille, et c'est quelque chose dont elle ne se sera jamais vraiment remise, parce qu'effectivement la famille c'est important, et la famille c'est aussi un nom. On est d'abord son nom de famille quand on est dans le monde arabe, souvent. Et si on ne correspond plus à son nom de famille, en fait, les gens n'arrivent plus à nous situer. Et Jocelyne a été, du coup, cet électron libre qui s'est un peu perdu et qui a dû être seule, en fait, finalement. Et je pense qu'elle s'est ressourcée aussi dans la possibilité de créer une nouvelle vie à Paris. Parce qu'effectivement, elle s'est installée à Paris et elle faisait à peu près 6 mois par an là et au Liban. Et je pense que si elle était restée au Liban, elle serait devenue folle.
Mmh. Ouais, donc cet éloignement, d'une certaine manière, a nourri également son parcours et ses aspirations. Qu'en est-il de... Je pense à ça maintenant parce qu'on parle de figures un petit peu tutélaires comme ça. Il y a, alors pour parler de la France, un des prisonniers politiques, hein, Georges Ibrahim Abdallah, qui est libanais. Y avait-il une relation entre elle et eux? Se connaissaient-ils?
Alors, Jocelyne connaissait à peu près tous les groupes politiques de l'époque, et encore, non, mais il y en avait tellement, qui partaient notamment sur le soutien de la Palestine, c'était assez... elle était, elle suivait toutes les manifestations pour libérer Georges Abdallah. C'était quelque chose
qui est donc encore en prison actuellement.
Qui est encore en prison actuellement, oui. Mais elle n'était pas proche, particulièrement proche de d'aucun groupe politique, parce qu'elle, finalement, elle avait pas non plus de, elle avait une conscience politique, mais qui n'était pas du tout militante. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine naïveté aussi dans son approche des choses, qu'on lui reprochait beaucoup à l'époque aussi, notamment que les hommes très engagés, qui l'entouraient, lui reprochaient beaucoup. Et bon, voilà.
Oui, d'accord, d'accord. Revenons à l'association des Amis de Jocelyne Saab. Alors, le travail que vous menez, on l'a dit, tu l'as dit, c'est un travail également patrimonial, hein, de conservation de ce qui a trait à l'œuvre de Jocelyne Saab. De quoi est-ce que vous auriez besoin? Est-ce que l'on peut d'ores et déjà lancer des appels? Est-ce que vous cherchez un financement tout de même, ou des locaux, ou quoi d'autre?
Alors nous, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est effectivement d'abord de financement. Parce que c'est une association qui fonctionne pour l'instant sans fonds du tout. Elle a été lancée en février, donc c'est quand même assez récent. Et le travail à faire est énorme. Donc, parce que notre objectif est de restaurer, bon, non pas les 47 films, puisqu'une certaine partie a été réalisée en vidéo, mais au moins 35 films qui existent en pellicule, donc en 16 mm et en 35 mm. Et ça revient, c'est un budget de 250 000 euros. C'est un budget énorme, et je tiens à ne pas sélectionner les films qui devraient être restaurés, parce que sinon on perd la moitié de l'œuvre et plus personne ne la verra jamais. Donc c'est hors de question. Et du coup, d'essayer de faire les choses bien et d'essayer de faire les choses de manière exhaustive. Et ça demande beaucoup d'argent, parce que les processus de restauration sont coûteux, et surtout demandent beaucoup de techniques. Donc voilà, c'est aussi des services qu'on ne peut pas demander comme ça. Et j'ai la volonté de travailler avec des acteurs du monde arabe aussi, si possible, parce qu'il y a de plus en plus d'associations qui se créent aussi pour créer soit des cinémathèques, soit des lieux de conservation des films, soit des lieux en tout cas de préservation, quelle que soit la forme des films, et qui commencent à lancer un peu des studios de post-production pour essayer d'apprendre à travailler l'image. Et donc voilà, il me semble essentiel de pouvoir rendre aussi au monde arabe son patrimoine.
Tout à fait. Tout à fait. Et à l'humanité en général, de toute manière, bien entendu. Avez-vous d'ores et déjà des interlocutrices et interlocuteurs au Liban, en France et ailleurs? Ou est-ce que ça, c'est assez compliqué également, voilà, de revenir et de parler de la personnalité de Jocelyne Saab?
Non, on a des interlocuteurs, bien sûr, et notamment... en fait, ce qui était assez terrible, c'est que Jocelyne était très peu connue de son vivant, notamment parce qu'elle ne montrait pas ses films, mais pas seulement, c'est aussi qu'il y avait une espèce de tension avec cette génération qui est monté pendant la guerre, en fait, qui a commencé à faire des films pendant la guerre et qui a beaucoup parlé, qui était là des témoins essentiels et qui ont continué à faire des films après. Beaucoup sont morts, Jocelyne reste. La nouvelle génération ne voulait plus voir ce genre de personnages. Eux, ils n'avaient pas vécu la guerre, ils vivent dans la culpabilité de ne pas avoir vécu la guerre, ils ne voulaient pas du tout encenser leurs aînés, en fait. Ils vivaient vraiment dans l'idée qu'il faut un peu écarter pour pouvoir exister, et Jocelyne a beaucoup souffert de ça. Et à son décès, tout le monde s'est revendiqué évidemment de son patrimoine, que personne ne connaissait, puisque personne ne l'avait vu, puisque personne ne voulait le montrer jusque-là. Mais ça a quand même créé un grand mouvement de solidarité qui a un petit peu resserré les troupes autour d'un intérêt, en tout cas, et de l'idée que c'est très très important de faire perdurer ce patrimoine-là. Donc on a des interlocuteurs, des associations surtout, évidemment, qui voudraient travailler avec nous, mais en fait on peut rien commencer si on n'a pas de fonds. Et effectivement, il est possible sur le site web de l'association de donner déjà, de faire des dons, évidemment, libres. Hein, mais on démarre aussi une grande campagne de levée de fonds, et on espère trouver des mécènes, on espère pouvoir sensibiliser quelques institutions aussi, en France, mais aussi n'importe où en Europe, et évidemment dans le monde arabe, c'est possible.
Alors, le site internet, c'est www.jocelynesaab.com. Il y a un mail que je peux donner?
Bien sûr.
Alors, amical.jocelynesaab@gmail.com. Vous êtes présente sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, où là on note Jocelyne Saab Asso et on tombe dessus. Donc l'appel est lancé, effectivement, vous êtes à la recherche de fonds, également de locaux, où ça c'est moins urgent.
Les locaux, c'est moins urgent dans la mesure où il est important aussi de rendre disponible ce patrimoine-là, c'est-à-dire de travailler avec des institutions françaises. On a déposé les copies positives des films qu'on a, parce qu'on n'a pas tout en positif évidemment, à la Cinémathèque française. Des copies sous-titrées anglais sont en dépôt à l'Arsenal de Berlin, donc la Cinémathèque berlinoise. Et l'intégralité des négatifs des films sont déposés au CNC français, ce qui fait qu'on a une sécurité aussi avec des professionnels qui prennent vraiment soin de tout ça.
Oui, ça c'est bien. pourrait-on accoster, alors qu'est-ce qu'on aurait envie de dire de Jocelyne Saab à des personnes, à des jeunes femmes, des jeunes filles qui, on les voit beaucoup dans la rue maintenant, il y a des mouvements extrêmement offensifs autour du climat, mais pas que, que l'on salue par ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on aurait envie de leur dire? Pourrait-on accoster Jocelyne Saab à des figures tutélaires comme Anne-Marie Schwarzenbach, comme Ella Maillard, ou comment est-ce qu'on aurait envie d'en parler pour dire, voilà, cette figure-là, elle est vraiment digne d'intérêt également du point de vue féministe, en tout cas pour des filles, pour des jeunes filles qui se construisent.
Féministe, Jocelyne Saab s'est définie de la sorte après 2013 en fait, après avoir réalisé pour le MUCEM une série de films appelés Café du genre, qui ont suscité beaucoup d'intérêt et qui ont du coup amené des questions de la part de journalistes et de chercheurs qu'elle ne s'était pas posées vraiment auparavant, parce que le féminisme pour elle, et comme beaucoup de femmes de sa génération aussi dans le monde arabe, c'était pas une priorité du tout. Il fallait d'abord essayer d'avoir un peuple uni avant de poser la question de la place de la femme dans ce peuple-là et dans cette société. Donc je pense que Jocelyne Saab se place plutôt du côté des... En plus, en tant qu'artiste, elle a un discours particulier qui parle aussi à travers les images et le son, plus que par les mots et par la parole. Donc c'est peut-être plutôt d'un côté d'un Godard ou d'un Chris Marker que je la placerais, avec l'essentialité de dire que c'est une femme et qu'il y en a peu de ce calibre-là, et que justement il faut peut-être revoir cette œuvre-là pour s'en inspirer et montrer que les femmes ont aussi beaucoup beaucoup de choses à dire et à montrer.
Absolument. Alors on arrive doucement au terme de l'entretien. Y aurait-il des questions qui surgiraient, ou bien avons-nous fait pour aujourd'hui, parce qu'on s'est promis des prochaines rencontres, au moins par téléphone, a-t-on fait le tour du sujet aujourd'hui?
J'ai une question qui me taraude depuis le début de tous les interviews, et je vais te la poser à toi. Mais est-ce que le cinéma abolit les frontières? Est-ce que la culture abolit les frontières? Est-ce qu'on arrive à tisser des liens, même avec les voisins ennemis, quand on fait du cinéma?
Je pense que la création est très subjective, et on peut abolir des frontières avec la création, mais on peut aussi en créer. Et tout dépend de l'engagement politique du coup qu'on met dans tout ça, parce que c'est délicat. Je pense que le cinéma de Jocelyne avait pour objectif de détruire toutes les frontières possibles, en tout cas du tiers-monde. Parce qu'elle est partie au Vietnam, elle est partie dans le Sahara occidental pour défendre la cause du Front Polisario, elle a défendu les Kurdes en Irak. C'est, pour elle, c'était... Même le peuple arabe n'a pas de frontières, parce que non, on est juste tous ensemble, là, il y a des problèmes, il faut qu'on se discute, il faut apprendre à discuter. Et montrer ce qui se passe ailleurs permet de discuter aussi. Mais dans d'autres cas, le cinéma peut aussi inventer des frontières là où il n'y en a pas, et diviser beaucoup en stigmatisant. Donc c'est pas propre au cinéma, je pense que c'est vraiment propre à l'artiste.
Alors pour en finir, Mathilde Rouxel, en te remerciant d'avoir pris tout ce temps, en quoi a-t-elle eu une influence sur ta trajectoire à toi?
Bon, elle m'a changé ma vie.
Ah bah oui, j'imagine. Alors en quoi? Vers quoi est-ce qu'elle t'a, menée d'une certaine manière, ou en tout cas, elle t'a bougé?
Je pense qu'elle m'a montré que tout est possible et qu'on peut tout faire si on veut faire des choses. On peut au moins essayer de les faire. Et en essayant de les faire, on comprend que c'est le trajet du vouloir faire qui forme et pas l'objectif. L'objectif, il change tout le temps, de toute façon. Mais si on est lancé... Là, on est en train de créer, là, on est en train de faire des choses, là, on est en train d'agir sur le monde. Et ça, c'est, je pense, la plus belle leçon qu'elle ait pu me donner, et je pense que je ne suis pas la seule à en avoir bénéficié.
C'est le chemin qui compte.
Oui.
D'accord. Compte. Mathilde Rouxel, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bon courage pour cette association. On le rappelle, l'association des amis de Jocelyne Saab, créée tout récemment au mois de février. Et donc, le site internet, c'est le suivant, www.jocelynesaabasso.com, présent donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Le mail est le suivant, amical.jocelynesaab@gmail.com. Merci et à bientôt.
Merci.